Beyrouth, décembre 2020, avec Omar Abiazar de la compagnie Zoukak.
Il y a la première demain, mais est-ce qu'il y a eu depuis cet été des représentations de théâtre déjà ou pas?
Très peu, voire aucune. Donc, je crois que nous sommes la première représentation de théâtre qui va avoir lieu depuis pas mal de mois. Et c'est beaucoup de responsabilités parce que les gens ont hâte de retourner dans les salles et on s'attend à avoir beaucoup de monde, donc on a envie de recevoir les gens comme il se doit, en quelque sorte, et non pas on a envie d'être à la hauteur de l'attente des gens pour cette rencontre après tant de mois.
Il est 20h sur France Culture et que peut le théâtre? Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce que dans l'urgence, on en a besoin? La compagnie Zoukak à Beyrouth a justement collé l'urgence au théâtre. Il serait urgent de créer, de raconter autrement, de dire ce qui est eu, de transformer les plaies, de garder vivante la pensée. Zoukak existe depuis 2006, une année avec difficulté justement, puisque c'est l'été de la guerre avec Israël. Au lieu de se dire « alors on arrête », ils se disent « on va exister encore plus ». Zoukak, dès le départ, ce sont les créations et tout un travail social et humain d'atelier. Une méthode de thérapie par le jeu avec des réfugiés, des victimes de violences, de conflits, dans des lieux privés de l'art et de la beauté. Alors Zoukak est engagé et fait du plateau un espace collectif de réflexion. En 2006, ils sont tout jeunes, se sont rencontrés à la fac et ils travaillent dans un appartement. Depuis, ils ont créé un festival international et un lieu de vie, leur studio. On l'a échappé belle, c'est ce qu'Omar Abiazar nous disait dans la première émission de l'année, après l'été. Il y avait eu le 4 août à Beyrouth. On prenait des nouvelles du théâtre dans le monde et l'explosion avait détruit en partie le studio de la compagnie qui se trouvait près du port. Mais depuis plusieurs mois déjà, il n'y avait plus de théâtre. Au Liban, en octobre 2019, c'était le début de la révolution qui voulait dire adieu à une classe politique incapable d'enrayer la crise économique. La crise a duré, elle s'est aggravée, la pandémie est arrivée et l'explosion a été un choc. Ce mois de décembre marque la réouverture des théâtres et la première de la pièce de Zoukak, « I hate theater, I love pornography ».« Je déteste le théâtre, j'aime la pornographie », qui se moque de ce que l'Occident attend des scènes de l'Orient, qui devrait absolument parler de résilience, de crise, de tragédie. Le 10 décembre, c'était la première, la reprise. C'était essentiel, comme ça l'est dans tout pays qui n'abandonne pas la pensée et l'intelligence collective.
Et ce soir, quand vous venez, si vous voulez un bon sandwich au poulet, ça c'est malouche.
Ouais. Ça c'est les bons sandwichs au poulet.
Ouais. C'est les meilleurs sandwichs au poulet de Beyrouth.
C'est marouche.
Nous sommes donc à Beyrouth, à la veille de la première du spectacle de la compagnie Zoukak au théâtre Al-Madina. Décembre, c'est aussi le mois de leur festival international Sidewalks, qui existe depuis 2013. C'est une biennale, c'est la troisième édition, qui cette année s'appelle Radical Stages, les scènes radicales. J'ai rejoint Omar Abiazar, qui a mis en scène cette dernière pièce. On cherche l'impossible, un endroit calme dans la ville pour parler, en longeant la ligne verte, ancienne ligne de démarcation.
C'est l'immeuble Barakat. Un chef-d'œuvre architectural et qui est exactement la démarcation de Beyrouth Est, Beyrouth Ouest. Et c'est devenu un musée de la mémoire. Et c'est une architecte qui s'est battue pour que la municipalité de Beyrouth ne le détruise pas. Et bon, c'est un bel immeuble.
Le studio de la compagnie n'est pas encore reconstruit. Le spectacle, pour la reprise, aura lieu au théâtre Al-Madina, dans le quartier de Amra. Et nous sommes là, un peu plus haut, à Ashrafieh.
Ça, c'est les vitres qui sont tombées durant l'explosion.
Ouais, il y a encore beaucoup de vitres par terre. Ouais. Pourtant, là, on n'est pas si près du port. Là.
On n'est pas si près du port, mais on est dans Achrafieh, qui est une colline, qui est un des quartiers qui a été le plus touché par l'explosion. Parce que c'est sur une colline, donc je crois que le vent de l'explosion a touché du fait qu'elle était surélevée.
C'est Tous en scène sur France Culture, en immersion pendant une heure au Liban.
Non, on va se balader dans la rue Mono.
D'accord.
C'est là où j'ai grandi.
Parfait. Parce que là, on n'a pas réussi à éviter ni les voitures, ni les travaux.
Non, mais c'est quasiment impossible au Liban de trouver un lieu tranquille parce que il n'y a aucune politique de l'espace public au Liban. Comme nos politiciens et les personnes en charge de s'occuper du bien-être des citoyens sont complètement corrompus. Ils ont décidé d'exploiter le moindre espace au Liban, ce qui fait que tu ne trouves même pas un trottoir au marché. Là, on est supposé être dans le centre de Beyrouth, enfin le vrai centre de Beyrouth, mais tu peux même pas t'asseoir, il n'y a pas un banc pour s'asseoir.
Donc en fait, toi, tu as grandi par là.
Oui, quand on est venu habiter dans cette rue en 1991, parce que là, on est, comme je t'ai dit, dans le centre de Beyrouth, la rue était quasiment détruite, il n'y avait pratiquement plus rien. Et il y avait juste notre immeuble qui était plus ou moins debout. Et peu à peu, c'est la gentrification, la reconstruction et la gentrification de la rue a bouffé la rue peu à peu. C'est devenu, durant les années 2000, la rue de tous les bars, les boîtes de nuit, les restaurants un peu à la française. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont mis des pavés.
Donc vous êtes arrivé juste après la fin de la guerre civile.
Oui, exactement après la fin de la guerre civile, l'année où ils ont voté la loi d'amnistie, donc où tous les criminels de guerre du Liban se sont auto-amnestiés. C'est très pratique comme système, donc tu fais des crimes de guerre et après tu votes une loi où tu dis que tu es innocent, toi et tes ennemis. Le lendemain, toi et tes ennemis vous formez des alliances politiques contre le peuple. Comment exploiter tout un peuple durant des années et que ce peuple soit content de cela et croive que c'est la seule solution. En fait, ce que nous vivons maintenant, c'est la désillusion de la paix. On a vécu des années 90 jusqu'à maintenant une paix illusoire. Et à gros coups de dollars saoudiens et d'investissements étrangers. Mais maintenant, la crise, que ce soit la crise économique, ou que ce soit la crise sécuritaire, ou la crise sociale, ne fait que prouver qu'il ne peut y avoir de paix au Liban sans justice. Et la justice ne peut pas être une loi d'amnistie. On ne peut y avoir un contrat social, on ne peut y avoir une construction de société qu'à partir de la justice où les gens doivent être tenus, les criminels de guerre doivent être tenus responsables de leurs actions. Et malheureusement, on est encore 30 ans plus tard sous l'hégémonie, sous l'emprise de ces criminels.
Le 17 octobre 2019 au Liban, dans toutes les régions, dans toutes les communautés, commence la révolution qui demande le départ de la classe politique en place depuis la fin de la guerre civile et une solution à la crise économique.
Et ce changement, c'était un peu l'espoir de la révolution d'octobre dernier, en 2019.
En fait, ce qui s'est passé en octobre, c'est... Oui, c'est pas seulement l'espoir, mais c'est aussi comment tuer le mythe libanais. Le mythe de la résilience, c'est-à-dire nous n'en pouvons plus. On nous a vendu la résilience et l'espoir d'un meilleur lendemain depuis notre plus tendre enfance en nous disant demain est meilleur. la solution, c'est demain, c'est demain, c'est demain. Et c'est encore ce qu'on essaie de nous faire vivre. La solution, c'est demain. Demain, on reconstruira le Liban. Et donc, en octobre, ce qu'on a commencé à faire, ou ce que la rue a essayé, ou essaye encore de faire, c'est de dire, foutez-nous la paix avec votre mythe, c'est de vous qu'on ne veut plus. Arrêtez de nous vendre de l'espoir, arrêtez de nous vendre un futur qui ne saura arriver.
سيد الحمام شرب العرق لعب الورق خيل السبا سيد الحمام رسم البرون لبس الغوار شم الهوى أكل الهوى شاغل
Nous sommes toujours à Beyrouth, au Liban, avec Omar Abiazar de la compagnie Zoukak.
Pourquoi, à ton avis, après le mois d'octobre dernier, la révolution, ça n'a pas réussi justement à passer complètement à autre chose, alors que c'était ça qui était demandé et qu'il y avait un ras-le-bol collectif vraiment commun entre justement tout. Pour le coup, on a eu l'impression, tous les Libanais.
On est passé à autre chose. Là où on est passé, c'est que plus personne ne croit un seul mot qui sort de la bouche de nos politiciens. Ils ont perdu toute crédibilité. Mais après, il faut se dire que quand on fait une révolution, il doit y avoir un État en face pour qu'il y ait une chute de cet État. Mais en fait, nous, on n'a pas d'État en face de nous. On a un système mafieux. C'est une mafia qui nous gouverne. C'est une mafia, et quand on parle de mafieux ou de miliciens ou de criminels de guerre, seigneurs de la guerre, c'est des gens qui n'ont pas d'amour propre. Donc on a beau essayer de s'attaquer à eux, c'est des gens qui sont dans une conscience mafieuse. Et ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont pas une oreille portée sur le peuple. Et un jour ou l'autre... Comme dans tous les films américains de mafia, ces gens-là vont finir par s'entretuer eux-mêmes. Et j'espère que ça va avoir lieu bientôt, pour qu'on fasse une belle tragédie à la Francis Ford Coppola.
Là, on est où, là? On est toujours...
On est encore dans la rue Monod. Okay. Tu vois, c'est tous des restaurants et des bars fermés qui ne travaillent plus. Crise économique.
Ouais.
Pure et dure.
Il n'y a presque rien qui est ouvert là dans la rue.
Ça, c'est pas un bar, ça, c'est un salon de beauté.
Bah, lui, il est ouvert.
Oui, les salons de beauté, ça fonctionnera toujours. Il faudra bien que quelqu'un maquille nos cadavres. C'est joyeux le petit déjeuner avec moi.
Et qu'est-ce qui se passait au théâtre pour Zoukak en octobre dernier?
En fait, en octobre dernier, on retournait de Norvège, où on voulait jouer au Liban la première de I Hate Theater, I Love Pornography. Et on a vite été confronté à la rue et on s'était dit à ce moment-là que non, c'est pas le moment d'être dans les salles de théâtre. Personne ne veut être dans les salles de théâtre. Maintenant, on doit être dans la rue. Donc, on a annulé notre première, la représentation de Ahed Theatre à la pornographie. Puis après, il y a eu la crise économique a commencé et on avait d'autres chats à fouetter, comment sauver le studio. Les gens n'avaient même pas de quoi payer une entrée au théâtre. Donc, aussi, on a re-annulé pour quelques mois plus tard. Après, il y a eu la crise du Covid. Après l'explosion, le théâtre a explosé. Et puis, ça a été la grosse dépression. Plus personne n'avait envie de faire quoi que ce soit. Et on se demandait aussi un peu à quoi ça servait de jouer en ce moment où tout le monde était complètement déprimé. Et on a attendu jusqu'à ce que on a décidé que soit on restait à se morfondre dans les affres de notre mélancolie artistique, soit on pouvait commencer par faire quelque chose d'inutile. Et on s'est dit, c'est quoi faire quelque chose d'inutile de nos jours? On a annulé notre festival. On s'est dit, on ne veut rien faire. Et pour ne rien faire, la seule chose qu'on puisse faire pour ne rien faire, c'est de ne rien faire ensemble. C'est jouer un spectacle qui parle de rien, disons, qui parle de nos désillusions artistiques, économiques, politiques, où nous, en tant que compagnie de théâtre engagée, parlons du fait que notre métier est le pire métier du monde, et c'est à la limite de la prostitution, et que la seule façon de survivre dans ce pays, c'est de se prostituer pour l'Occident. Et c'est un spectacle qui dit juste à l'Occident, vous voulez du théâtre qui sort du monde arabe, vous voulez du misérabilisme. Le misérabilisme est notre seul billet de sortie, voilà du misérabilisme. Enjoy la nécrophilie de votre vision exotique de l'Orient. Pour qu'on puisse avoir une place sur les scènes internationales en tant qu'artiste arabe, de nos jours, on ne peut jouer que des pièces qui sont conformes à la vision de l'Occident. Et si elles ne sont pas conformes, ces pièces-là, elles restent ici et elles sont en dehors de toute économie. Et donc, elles meurent dans le pays.
Et ça veut dire quoi, du coup, des pièces? Ça veut dire quoi, des pièces conformes à ce que l'Occident attend? Ça veut dire
Des pièces qui prônent les paradigmes occidentaux de démocratie, d'émancipation des femmes, des pièces qui montrent à quel point nous souffrons, en gros. Alors que peut-être nous n'avons envie que de monter un Hamlet, où nous avons envie d'utiliser des expressions qui sont loin de tout exotisme, parce qu'en fin de compte, on est une société mondialisée. Nous avons les mêmes mots, les mêmes envies, les mêmes désirs que n'importe quel artiste en France ou aux États-Unis. On nous oblige quelque part à voiler les femmes et à mettre des yu-yu dans les pièces de théâtre pour que ces pièces de théâtre aient une valeur sur la scène occidentale, alors que nous, ce que nous voulons, c'est vraiment un espace de réflexion commun, que ce soit avec un public libanais, européen ou américain. Et on n'est pas un zoo humain pour un public occidental. Le public occidental, à la même échelle que le public libanais, c'est un public pour la réflexion ensemble, et non pas pour une exhibition culturelle et ethnique. Et c'est de ça dont parle Ahed Theatre à la pornographie, c'est pour en finir avec le mythe de l'arabe intéressant et sympathique. On est tout à fait antipathique. Il faut l'avouer aussi.
Ça fait combien de temps que la sensation que tu décris là de devoir rentrer dans ce qu'on attend de nous en termes de spectacle depuis l'Occident, ça fait combien de temps qu'il y a cette sensation et l'envie de
sortir de ça? C'est quelque chose qui a commencé dans les années 90 avec la reconstruction du Liban et tous les projets de paix. Et toute cette économie des ONG qui est arrivée au Liban avec les projets de construction de la paix et du dialogue interculturel. Donc cette économie est entrée au Liban dans les années 90 et c'est comme ça que beaucoup d'artistes, de très bons artistes d'ailleurs aussi, ont commencé à jouer le jeu parce que c'était la seule économie présente pour l'art en général et la culture en l'absence de toute politique culturelle au Liban. Après, cette économie a pris son ampleur après la guerre de 2006 et les attaques israéliennes sur le Liban avec des projets interculturels qui essayaient d'intégrer l'Israël dans la géographie méditerranéenne et euro-méditerranéenne, tout en très subtilement. Mais c'est comme ça que l'argent arrivait au Liban sur ces projets-là. Après, l'apogée de cette économie, ça a été avec le début des révolutions dans le monde arabe et le printemps arabe et la guerre en Syrie, la révolution en Syrie. Et c'est là où on a commencé en 2013, en fait, notre création de I Hate Theater, I Love Pornography, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour les artistes libanais. On s'est dit, putain, mais comment on va faire maintenant? Et on nous a clairement dit que si on faisait une collaboration avec un artiste syrien, on aurait accès à plus de fonds. Donc c'est là où on s'est dit, d'accord, on va faire une adaptation de Ennemi du peuple de Ibsen, mais sur le marché de l'art, et où une compagnie de théâtre, on parle d'une compagnie de théâtre qui collabore avec un dramaturge syrien pour avoir le fonds européen qui va nous sortir de la misère. Et c'est l'histoire de la pièce, en fait, où on se prostitue durant 1 h 5 min avec tout ce que l'Occident pourrait avoir envie d'entendre pour soutenir une compagnie de théâtre libanaise. Et en fait, c'est là où on a réalisé aussi, parce que le degré d'intégrité, à quoi ça se joue en fait, que après quand on a commencé à faire du théâtre à Zouka, qu'on a passé 10 ans sans un sou, et dès qu'on a grandi un peu, qu'on devait payer nos loyers, que nos parents ne pouvaient plus subvenir à nos besoins, on a réalisé qu'on devait jongler avec les économies internationales pour pouvoir faire entrer, pouvoir avoir des entrées. Et c'est là où, par exemple, on nous proposait un projet pour le dialogue interculturel ou pour des projets sur la paix dans les camps palestiniens. où on s'était dit, mais c'est pas possible, de quelle paix on va parler en 2007 alors qu'il y a des explosions partout. C'est là où, par exemple, on a commencé à dire, vous voulez qu'on travaille sur la paix, alors on va faire un projet sur l'histoire du Liban qui n'est pas écrite. Et c'est comme ça qu'on a jonglé durant des années. Et à Head Theater, à Love Pornography, c'est un peu l'apogée de cette façon de jongler avec les projets et, les, et l'économie de la culture au Moyen-Orient. Parce qu'en fait, personne ne veut financer une pièce de théâtre. Tout le monde veut financer un projet, par exemple, où on travaille avec des réfugiés, où on travaille avec des anciens prisonniers, ou avec des femmes sujettes à des violences domestiques. C'est ce qu'on
fait. Ce que vous avez fait beaucoup aussi.
Ce qu'on fait tout le temps. Et on le fait parce qu'on le veut. Mais on ne le fait pas parce que c'est, il y a une économie. Mais personne ne veut soutenir un Hamlet. Ou n'importe quel Shakespeare, pour ne pas mettre Hamlet. Ou personne ne veut soutenir un talent. Ou une craftiness, un artisan. Et c'est pour ça, par exemple, maintenant, durant les années qui ont précédé, nous avions créé une plateforme qui s'appelle le Focus Liban, qui était une plateforme pour des artistes émergents où on invitait des programmateurs de tout le monde pour venir voir un peu ce qui se passait sur la scène au Liban. Cette année, on a décidé, et ça c'est les bienfaits de la crise aussi, on s'est dit qu'au lieu de faire encore ce marché d'artistes, on va se focaliser sur des personnes et des gens qui sont focalisés sur leur métier. Donc, au lieu de faire une plateforme d'artistes, on va donner un espace, pour un pêcheur, des avocats, des entrepreneurs, des artisans, des artistes aussi, des dragues, des gens qui travaillent sur la cause des disparus, des 17 000 disparus au Liban. Donc, notre focus Liban va être vraiment focalisé sur des gens focalisés au Liban, en dehors de toute économie de marché. Et ce qui est agréable aujourd'hui, quand on joue à Hey Theater, I Love Pornography, et c'est ce que je disais, avec tous les problèmes techniques que nous avons qui sont liés à la crise économique, où on ne peut même pas acheter de batteries, parce que les batteries pour les micros coûtent une fortune maintenant.
Parce qu'avec la crise et l'inflation, la livre libanaise a complètement... chuté, donc tout coûte énormément plus cher en ce moment.
Voilà, tout coûte énormément plus cher, donc ce qui fait qu'on ne peut même plus louer un micro, on ne peut plus louer de la lumière, on ne peut plus acheter des batteries parce que tout coûte à peu près 100 fois plus cher. Et si tu n'as pas de dollars, tu n'as pratiquement pas accès à ce matériel. Et quelque part, c'est horrible. C'est le cauchemar de tout metteur en scène ou de toute compagnie de théâtre. Mais quelque part, ça nous ramène aussi à la base de pourquoi nous sommes en train de faire du théâtre. Et aujourd'hui, malgré tous ces problèmes-là, on est content que demain soir, on va tous se retrouver ensemble dans une salle après l'explosion, après la crise économique, après, malgré la pandémie. Lira.
مالين بيك ومقتي عالقليلة صورة سمكة خيارة خبزة قهوة ويسكي عرق بلدي عالقليلة كيف حال الحب حبيبي كيف حال الناس بل حالي قال انه
Le 4 août dernier, au moment de l'explosion à Beyrouth, la compagnie Zoukak venait de quitter le studio qu'ils ont depuis 4 ans dans un des quartiers près du port. Et heureusement, ils n'ont pas été blessés.
La première demain, elle aura lieu dans un théâtre dans le quartier de Hamra, parce que le studio, évidemment, que vous avez, qui a été détruit pendant l'explosion, n'est pas encore retapé.
Oui, en effet, nous jouons dans un théâtre à Hamra parce que le 4 août, 5 minutes après qu'on soit sorti du studio, les 24 fenêtres du studio ont éclaté. Notre bureau a éclaté, beaucoup de matériel a été endommagé. Bon, maintenant nous avons réussi un peu à reconstruire, nous avons 4 murs dans lesquels on peut répéter, mais ce n'est pas encore en état de fonctionner et de recevoir du public. Et comme nous recevons aussi avec une jauge à 50%, ça fera 30 personnes dans la salle. C'est pas exactement ce que nous voulons. Nous voulons être au moins avec 200 personnes dans la salle. Et c'est aussi agréable de voir comment tout le monde a envie de venir au théâtre dans un pays où la culture n'est pas considérée comme quelque chose d'essentiel. On remarque que si c'est essentiel, malgré tout, les gens ont déjà réservé, on est déjà rempli pour les 3 soirées de représentation, ce qui est assez rare.
Et là, il y a combien de places dans ce théâtre où vous allez jouer ?
Il y en a 400, donc nous pouvons mettre 200 personnes. C'est beaucoup au Liban pour du théâtre indépendant ou expérimental comme le nôtre.
Et tu parlais du prix du matériel pour la compagnie. Il y a aussi le prix, en effet, de places de théâtre pour les gens en ce moment. C'est aussi possible de garder les mêmes choses qu'avant ou...
Les personnes qui peuvent payer payent l'équivalent de ce qui était le billet avant. Ce n'est pas le prix d'un billet normal. Et puis il y a le prix qui est comme celui qui était avant la crise économique, qui ne vaut, en termes matériels, ne vaut pas grand-chose, mais quand même les personnes qui vont le payer seront en train de mettre une grosse partie de leur revenu, qui ne vaut plus rien maintenant. Il faut se dire que le salaire moyen d'un Libanais était d'1 million de livres libanais, ce qui valait à peu près 750 euros. Ce million maintenant vaut à peu près 100 euros. Et on parle de tous les employés dans la fonction publique, surtout des enseignants d'université, des enseignants d'école, des infirmiers, des médecins. Ces gens-là qui sont essentiels dans toute société, leur pouvoir d'achat est quasi nul maintenant. Et on est en train aussi de vivre une hémorragie de ces gens-là. Plus de 600 à 700 médecins ont quitté le Liban durant l'année qui est passée. sans parler des jeunes artistes ou de toute personne qui avait une ambition, une envie artistique, qui a quitté le Liban, les architectes, les avocats.
Et là, le festival qui a lieu en ce moment, là, en décembre, c'est le festival Radical Changes.
Stages.
Stages, pardon. C'est quoi justement un radical stage?
En fait, ce que nous voulions, Radical Stages, c'était à la base, comme notre biennale, c'était un festival de théâtre international où nous étions supposés inviter les grands noms de la scène européenne et américaine au Liban, et d'être très contents que ces personnes-là soient parmi nous. On a décidé que cette année, il a été décidé pour nous, que nous n'allons rien faire à l'international, mais nous allons plutôt programmer des tables rondes et des artistes locaux qui ont un rapport radical au contenu et à la forme. Ce qui fait que nous allons 4 jeunes artistes émergents qui vont présenter leur spectacle au studio de Zoukok dès qu'il sera reconstruit dans les semaines qui vont suivre, qui ont des rapports radicaux, soit en termes de contenu ou de forme, et qui ont un rapport aussi à leur pratique, comme on en a parlé, un rapport très clair à leur pratique. À côté de cela, nous allons faire des tables rondes qui seront une assemblée politique d'artistes et de personnes de la société civile libanaise. Et ces tables rondes vont... le sujet va être pour en finir avec le mythe libanais, pour en finir avec le mythe de la loi du plus fort. Parce qu'on est, régi par la loi du plus fort au Liban. On a peur des seigneurs de la guerre parce qu'on pense que c'est le plus fort qui doit gouverner, que ce seigneur de la guerre doit gouverner. Et cette violence, on en a ras le bol. Donc on fait une série de tables rondes pour réfléchir avec des penseurs, des activistes, comment en finir avec ce mythe de la loi du plus fort. Comment en finir avec le mythe de la résilience libanaise et du phénix qui renaît de ses cendres. Et de se dire, on en a ras le bol de renaître de nos cendres. On veut juste faire le deuil de nos morts. On ne veut pas être productif, on ne veut pas reconstruire ce qui, à la base, était une illusion. On veut balayer les cendres et remettre de nouvelles pierres et enterrer ce foutu phénix qui n'arrête pas de renaître de ses cendres et avoir un petit chat chez soi. Et donc, c'est une série de tables rondes sur ce sujet. On a travaillé durant l'année aussi qui est passée avec un groupe de jeunes, un peu de toutes les régions du Liban, pour faire une pièce de théâtre. Explosion, Covid, donc nous avons fait cette pièce en ligne. Donc ça va être aussi une diffusion de cette pièce de théâtre en présentiel et en ligne, qui a commencé avec la pandémie et qui s'est terminée par l'explosion. On a enregistré des anciennes pièces de Zouka qui parlaient de l'histoire du Liban. Une de ces pièces qui s'appelle Perform Autopsy, qui fait l'autopsie du cadavre du Liban. On a tourné dans cette pièce dans tout le Liban. À la fin de cette pièce, on collectait des histoires de la guerre civile des personnes présentes dans la salle. Donc maintenant, on était supposé tourner cette pièce cette année. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enregistré et on l'a fait tourner sur des plateformes, dans les réseaux sociaux, dans toutes les régions du Liban. Et des radios de village, des radios de groupe, des radios d'associations dans toutes les régions du Liban. Et suite à ces présentations audio, on fait des rencontres avec le public sur Zoom. On a tourné ça sur plus de 10 radios maintenant et rencontré à peu près une centaine de personnes.
من بلد بلا حرب خلق منطقة التعايش والأخوة والتحالفات عملت هوية اللبنانية النقابات والعمال ضربوا الاقتصاد وبالأسواق للحكام اتضاربت المصالح والفتنة ولعت الأحزاب الميليشيات بإيد الزعيم والزعيم تيحمي لبنان كله. انقسم البلد خونة وطنيين وطنيين وخونة، ناس استعملوا السوريين وناس استعملوا الإسرائيليين. عز أيام الحرب شهيد بيموت وهو قاتل مجرم، بالحرب بيقتلوا الولاد والهوية بتقتل بالحرب، المجازر والخطف بتخلص ما الحرب انحسمت وصارت التسوية.
Comment, puisque Zoukak a quand même toujours été très en prise avec la société libanaise et avec ce qui s'y passait, avec la mémoire qu'il fallait y travailler parfois, comment tu décrirais l'évolution de la compagnie toutes ces années en parallèle de ce qui se passe dans la société, la façon dont les choses ont évolué, comment le désir de création a évolué? Enfin, est-ce que les désirs ont changé? Est-ce que et comment peut-être aussi tout ce pan psychosocial et ces ateliers ont nourri les créations et les envies d'histoire et...
En fait, quand on a commencé, quand Zoukak a commencé, notre combat était de construire quelque chose dans un pays où on ne considère ni le théâtre comme un vrai métier ou comme quelque chose, de construire quelque chose. On voulait avoir un public, que le public aille au théâtre. On voulait soutenir des jeunes, on voulait faire du théâtre malgré tout, et on faisait avec. Maintenant, on a l'impression qu'on veut nous chasser d'ici. Et tout le monde nous dit, partez, quittez le Liban. Notre désir de création a toujours été lié avec ce qui nous chasse ou veut nous laisser dans ce pays. Et maintenant, notre désir de création est « allez vous faire foutre, on va rester ici ». Et si quelqu'un veut partir, ça doit être ces seigneurs de la guerre, ces criminels qui sont au pouvoir, c'est eux qui doivent partir. Et on est très conscient que dans les mois à venir, la liberté d'expression au Liban va diminuer. On est très conscient que peu à peu, on va oublier le Liban à l'international, parce que comme tout le temps, après le momentum, on a des années d'oubli. On est très conscient aussi que le Liban va devenir un pays de plus en plus violent. Et notre travail va commencer à se construire autour de ces réalités. Avant, on travaillait sur l'histoire, maintenant on va travailler sur la violence. Comment se protéger de la violence, comment ne pas être violent et comment recevoir la violence. On va se concentrer sur quels sont nos réels besoins et non pas quels sont les besoins qu'on nous dit, qu'on nous donne, qu'on nous oblige à croire, et quels sont nos réels désirs. Et c'est des questions qu'on va poser dans nos créations dorénavant, parce qu'on a besoin de comprendre c'est quoi le Liban, c'est quoi cette société, comment construire une société en dehors des paradigmes de démocratie hellénisto-chrétien. Comment construire une société qui sort d'un peuple qu'on appelle libanais, mais qui en fait depuis des années n'est pas seulement libanais, mais est libanais, syrien, palestinien, sri lankais, philippin, ghanéen, kenyan. Comment sortir de ce racisme qui est ancré dans le monde arabe? Quel est le rôle du théâtre et quelles sont les narrations nécessaires maintenant qu'on a tout perdu? Ce qui est un luxe aussi. Des fois, quand on a la chance de tout perdre, c'est plus facile de reconstruire. Dans beaucoup de pays européens, on a tellement peur de perdre ce qu'on a construit qu'on s'enferme indéfiniment dans nos maisons et qu'on ne peut sortir qu'avec des dérogations. L'absurdité a plusieurs aspects.
Et aujourd'hui, quand on est un jeune au Liban, ou un jeune homme, une jeune fille, et qu'on veut faire du théâtre, créer une compagnie comme vous l'avez fait avec Zoukak, est-ce que c'est plus difficile qu'à l'époque de la création de Zoukak ou plus simple ?
Ça a toujours été difficile. Nous, à Zoukak, on a la chance de s'être rencontrés. Et c'est plus difficile de faire des rencontres aujourd'hui, oui. Parce que la société veut nous isoler les uns des autres. Et le théâtre, ce n'est que des rencontres. Oui, il est plus difficile pour les jeunes de se rencontrer aujourd'hui, surtout dans l'année qui est passée. Nous, on s'était rencontrés à l'université, dans les bars, dans les restaurants, dans les soirées. Bon, il n'y a plus de soirées, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de bars. Et plus personne ne veut aller à l'université libanaise qui a perdu toute crédibilité. Donc les gens se rencontrent en France, en Italie, aux États-Unis. Et on est aussi né de l'idéologie du travail collectif. Cette idéologie, durant les 20 dernières années, il y a eu la guerre au travail collectif et tout le monde a prôné l'individualisme, l'entrepreneurship, et le self-made success story des individus et le culte de la personne, ce que nous n'avons pas à Zoukak, mais oui, c'est plus difficile aujourd'hui. On a eu de la chance, on a eu beaucoup, beaucoup de chance.
Et est-ce que pour la partie atelier et plus travail psychosocial avec plein de communautés différentes, est-ce que là, vous avez réussi justement à former peut-être d'autres gens, des jeunes gens, en tout cas à passer le relais à des personnes qui vont pouvoir poursuivre ce travail en parallèle des créations de Zoukak et...
Parce que ces rencontres sont très difficiles. Durant les 10 dernières années, on n'a fait que de la transmission d'outils, de comment travailler collectivement, comment former une compagnie. Notre programme de mentoring est vraiment une autopsie de notre façon de travailler, du système de production au processus de création, et comment travailler collectivement et comment être intègre à son désir, ne pas confondre son désir avec les désirs de marché, et comment être pratique par rapport à cela sans vouloir vraiment rester avec un frigo vide durant des années. Et oui, on a fait cette transmission. Il y a des groupes qui ont été formés au Liban. Oui, il faut dire qu'on n'est pas les seuls au Liban. Il y a pas mal de collectifs par rapport à ce que est le pays. Il y a pas mal d'artistes par rapport à ce qu'est la réalité de ce pays. Mais oui, je ne voudrais pas être à leur place aujourd'hui. Nous, on avait aussi la chance que nos parents n'étaient pas dans la crise économique. Il n'y avait pas de crise économique. Donc, moi, j'ai habité chez mes parents jusqu'à mes 25 ans. Donc maintenant, ces jeunes qui sont en train de sortir des écoles et des universités, leurs parents font face à une crise économique aussi. Donc ils doivent travailler. Les jeunes avec qui nous travaillons, pour la plupart, sont en train déjà de travailler, que ce soit sur des chantiers, que ce soit dans la distribution de poissons, que ce soit dans la reconstruction de des routes ou dans des cafés. C'est des jeunes qui viennent le soir pour travailler avec nous après tout un horaire de travail. C'est des jeunes de 18 ans qui sont supposés soit être à l'université, soit en train de fumer des joints avec leurs potes, non pas en train de travailler. Pour pouvoir être des artistes, il faut avoir le luxe aussi de s'ennuyer, de glander, de rêver, de désirer des choses et de ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Aussi.
Et ça avait changé quoi pour Zoukak, le fait d'avoir un lieu, ce lieu qui a été touché par l'explosion, mais d'avoir un lieu de l'espace pour travailler, qu'est-ce que ça a changé ?
Pour nous, en tant que compagnie, c'était un lieu où nous pouvons être avec la ville et avec la société. Pour la ville, c'était un espace public. parce qu'on n'a pas d'espace public au Liban. Donc les gens pouvaient venir soit pour des soirées à moindre prix, parce que tout est très cher, soit pour voir une pièce de théâtre, soit pour des ateliers, et soit pour glander aussi et ne rien faire, soit pour rêver de faire une pièce de théâtre où nous offrions la salle et les salles de répétition pour des jeunes artistes qui ne peuvent pas se payer les pièces de théâtre, les salles de théâtre qu'il y a en ville. Donc pour nous le studio c'était notre ville, et pour la ville le studio c'était un espace public.
Et là la sensation avant la première de demain, c'est quoi? Puisque ça fait, on en parlait, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de représentation, que les gens ne sont pas allés au théâtre et que vous n'avez pas à jouer malgré les problèmes techniques, le lieu qui a changé. C'est quoi la sensation première?
C'est un peu comme le réveillon de Noël où on réunit toute la famille. On va revoir tous les gens qu'on n'a pas vus depuis un an à peu près. Notre public, le public, c'est parce qu'on... Il ne nous appartient pas, le public, la ville, les yeux, parce qu'il va y avoir tout le monde. On peut même plus parler de visages familiers, mais des regards familiers. Ça va être un moment de joie collectif et aussi un moment de deuil, parce que après l'explosion, on n'a pas pu se rassembler, on n'a pas pu sans la scène. Donc ça va être aussi un moment de deuil de toute l'année qui est passée. Et les moments de deuil, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau.
La première du spectacle de la compagnie Zoukak a eu lieu. Ils ont pu rejouer devant un public après un an d'arrêt et Omar Abiazar nous a laissé un message pour nous raconter.
C'était super le premier soir de voir les gens à nouveau entrer dans le même but, dans une salle de théâtre, revenir dans une salle, avoir une seule même envie, re-être ensemble dans une salle de théâtre et de penser ensemble la situation qu'on est en train de vivre. Et c'était encore plus beau de voir ces mêmes gens ressortir de la salle, certains contents, certains révoltés, quelques-uns déçus, d'autres satisfaits, d'autres extasiés. Mais c'était très très agréable de voir qu'à nouveau on avait le luxe d'être divisé mais ensemble, et non pas divisé mais chacun seul de son côté, ou ensemble avec la même opinion comme nous le proposent les lieux de culte qui eux par contre sont restés ouverts durant tout ce confinement. Et voilà, c'était, on a eu la chair de poule.
Yalatna, yalatna, latpahla tair lehama. روح يا حمام لا تصدق بتحك عنا لا تنام يلا تنام يلا تنام لا تذبح لا طير الحمام روحه يا حمام لا تصدق بضحك عنا لا تنام تيشتشي وحد تيشتشي والخوخ تحت المشمشي كل ما هب الهوى لا طفلانا دم مشمشي هيو هيو هيلينا مستك لكنك عيرينا تنغسل لتيابنا دا
On s'est demandé ce que pouvait le théâtre dans des temps troublés. À Beyrouth, il a repris et il est essentiel depuis des années pour activer la pensée et la beauté. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher. Vous écoutez France Culture, il sera bientôt 21h et c'est l'heure de la fiction.
يلا تنام لا تبح لا طير الحمام